Radio Capi.
Oh, Capi.
Le journal avec Gisèle Cage, bonjour.
Bonjour Jean Gandou, bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Capi pour ce journal d'information. Voici le sommaire de cette édition. Kinshasa accueille la 19e réunion des ministres de la Défense de la CIRGL, solidarité régionale et coopération militaire au cœur des échanges. La Première ministre Judith Suminwa et le ministre de la Défense des pays membres ont ouvert les travaux ce samedi avec un appel fort à l'unité et à l'action concertée pour la paix dans la région de Grand Lac. Goma, l'hôpital Ushirika en détresse face au retrait des humanitaires. Le centre peine à répondre aux besoins de plus vulnérables, victimes de violences sexuelles et enfants malnutris, privés de soins. Un cri d'alerte est lancé aux autorités pour éviter les pires. À ne pas manquer en fin de journal, notre invité du jour nous vient tout droit de Kindu dans le Maniema, Ngouama Théodore, directeur général adjoint de la Sakima. Dans un entretien exclusif, il revient sur les défis que traverse cette entreprise publique en marge de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures. Restez branchés, son interview avec Florence Kizalunga arrive dans quelques instants. À la une de ce journal, la 19e réunion des ministres de la Défense de pays membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL, s'est ouverte ce samedi à Kinshasa en présence de la Première ministre Judith Suminwa. À l'occasion de cette cérémonie inaugurale, le ministre congolais de la Défense nationale a lancé un appel en faveur d'une solidarité concrète et du renforcement des partenariats militaires entre les États de la région. La chef du gouvernement a salué le rôle de la CIRGL qu'elle considère comme un pilier du dialogue et de la coopération africaine. Plus d'informations avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces assises sont organisées en prélude du 9e sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, prévue le 15 novembre courant dans la capitale congolaise. La première partie de cette rencontre a porté sur l'analyse des défis sécuritaires persistants auxquels la région des Grands Lacs est confrontée, en se focalisant sur les tensions dans l'est de la RDC et au Soudan du Sud. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale de la RDC, Guy Kabombo Mwanyavita, a souligné que les défis sécuritaires touchant cette partie du continent, notamment le terrorisme, la prolifération des armes ou encore les menaces transfrontalières, exigent une solidarité agissante et une coopération militaire renforcée. Pour sa part, la première ministre a exprimé sa conviction que cette réunion dégagera des orientations fortes et réalistes, capables de traduire la volonté politique des États membres sur terrain. Judith Suminwa a réaffirmé l'engagement de la RDC en faveur d'une paix durable et de la concertation et de la coopération régionale afin que les armes s'éteignent et que la confiance renaisse entre les peuples de cette région.
En Ituri, le chef coutumier et le représentant de la société civile appellent le gouvernement congolais à accélérer le désarmement des groupes armés avant le retrait des bases militaires de la MONUSCO dans le groupement des Pamitu Amé et Mbroubou situé dans le territoire de Djougou et Mahagi. Ils estiment que cette mesure est cruciale pour prévenir une éventuelle recrudescence de violence susceptible de compromettre les avancées déjà réalisées en matière de paix dans ces zones. Cette recommandation a été mise à l'issue de la mission d'évaluation de la MONUSCO qui s'est achevée jeudi dernier sur le terrain. Le compte-rendu d'Isaac Remoyope.
La présence des casques bleus pendant près de 7 ans a permis de stabiliser les groupements des Pamitu Amé et Mbrobo, longtemps marqués par l'activisme des groupes armés, a rapporté des sources locales. Grâce à cette accalmie, des milliers de déplacés ont pu regagner leur village. Les activités agricoles et économiques, interrompues pendant plusieurs années, ont repris dans la région. Les marchés communautaires, notamment celui d'Amé, qui rassemblait chaque semaine plus de 10 000 personnes, ont également contribué à renforcer la cohésion sociale. Mais pour les chefs des groupements des Pamitu Amé, mais tous ces acquis risquent de disparaître avec la fermeture des bases de la MONUSCO. Même inquiétude exprimée par les chefs d'Embrobo où les casques bleus avaient installé leur base à Bali. Il estime qu'il faut d'abord désarmer tous les groupes armés avant toute fermeture.
Ils doivent attendre l'aboutissement du processus et le voir réussir. Qu'ils observent comment évolue le désarmement des groupes armés, c'est cela qui va aider notre population.
Pour sa part, la délégation de la MONUSCO MONUSCO a rassuré que les anciennes bases seront remises aux FARDC qui y établiront leur campement pour garantir la sécurité des populations. Les casques bleus continueront d'appuyer l'armée congolaise à travers des patrouilles à longue portée afin de préserver les acquis de paix dans la région. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capit.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont condamné les récentes attaques perpétrées contre leur position par le rebelle du M23 dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Dans un communiqué diffusé samedi soir, le porte-parole, le général-major Sylvain Ekenge, a accusé le M23 appuyé par le Rwanda d'avoir lancé des offensives contre les villages des Balumbula et Kibanda Mangobo, situés à la frontière entre les territoires de Walungu et de Shabunda. Il a également pointé du doigt les Toaguinés alliés au M23 dans le sud Kivu pour leur implication dans l'attaque du village de Touetoué dans les territoires de Fizi. Un extrait sélectionné par Ronelin Timbonera.
Ces dernières 72 heures, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au sud Kivu, au nord Kivu. Les attaques sont concentrées à Kasopo et à Kajinga, au groupement Nyamaboko 1er, secteur de Osobanyungu en territoire des Masisi. Sans oublier la tentative d'occupation du mont Irimui vers Bunyatenge dans le territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la communauté internationale et les négociateurs américains et qataris à témoin face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits dans le cadre des négociations en cours. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de la FCM-23.
Sud Kivu, à Penekuso, dans les territoires de Shabunda, les habitants dénoncent les exactions dont ils se disent aux victimes de la part du colonel autoproclamé JP, affilié au groupe du général autoproclamé Pumbafu. Selon plusieurs sources locales, ces miliciens accompagnés de ces hommes imposent à la population des amendes arbitraires fondée sur des infractions imaginaires. Par exemple, lorsqu'un ouragan emporte la toiture en paille d'une maison, le propriétaire est tenu responsable et sommé de payer une amende pouvant atteindre 50 000 francs congolais en plus de deux coques. Cette situation est confirmée par des sources administratives et représentants de la société civile. Un acteur des forces vives locales rapporte que des abus similaires sont observés dans les villages des Kilouza situés à 48 km de Penekuso. Là-bas, les élèves sont arrêtés lorsqu'ils ne parviennent pas à payer à temps les frais des contrôles des dossiers. Témoignage recueilli par Ronili Timbonera.
Et l'autre, là, en Kabbala, il se dit, il est RM, il est donc Raya Mutomboki. Et nous, les autres qui sont à Penekuso se disent être Bazalendo. Ce qui fait qu'il y a déjà une contradiction par rapport à leur vision, à leur façon de travailler, à le mode opérationnel. Alors, on attend à voir ce qui va se passer concrètement. Ils disent à l'État congolais de sécuriser la population et leur bien. Sans cela, en réalité, on risque même de voir que le déplacement massif de la population vers d'autres provinces, surtout la province voisine ici de Maniema, il y a un peu d'accalmie, mais ici, c'est l'insécurité chaque jour. C'est pour cela, alors que nous sommes dans une période où les gens cultivent, ils entretiennent leurs champs, ils font les entretiens, alors là, c'est compliqué. Donc, en tout cas, c'est bon de que l'État congolais, le gouvernement congolais, le gouvernement des provinces soient en réalité flexibles avec nous pour qu'ils envoient même d'autres forces républicaines pour nous sécuriser ici. Sans cela, on risquerait de nous mettre en difficulté avec nos patriotes qui nous sécurisent ici.
En raison de l'instabilité dans la région, la voix de cet habitant a été modifiée afin de le protéger contre d'éventuelles représailles. Nord Kivu, le centre hospitalier Ushirika situé à Goma traverse une période critique depuis l'interruption du soutien à des organisations humanitaires dont la prise en charge des survivants de violences sexuelles et des enfants souffrant de malnutrition. Selon la directrice de service de nursing, cette suspension met gravement en péril la continuité de soins et compromet la santé des populations les plus vulnérables. Faute des ressources, l'établissement se voit contraint de transférer ses patients vers d'autres structures et de limiter le traitement disponible. Face à cette urgence, les responsables de l'hôpital lancent un appel pressant aux autorités pour éviter une aggravation de la crise. Plus d'informations avec Jean Gandou.
Autrefois soutenu par les organisations humanitaires, le centre hospitalier au Chirika de Goma fonctionne aujourd'hui sans aucun appui. Conséquence, le centre ne peut plus traiter les malades comme avant, surtout les personnes les plus vulnérables, en particulier les victimes des violences sexuelles et les enfants souffrant de malnutrition. Écoutons à ce sujet les explications de la directrice nursing de l'établissement Immaculée Foura.
Quand on avait les partenaires, les victimes de violences sexuelles étaient accompagnées financièrement. Il y avait aussi des kits de dignité qui étaient réservés pour eux. Mais actuellement, la structure est vraiment incapable de le prendre en charge dans cette façon. Même chose aussi pour les services de nutrition. Nous avons le partenaire qui nous appuyait avec les pamplénates, les intras, les médicaments, certaines formations. Mais actuellement, il n'y en a pas. Les cas que nous recevons actuellement, non seulement c'est le point médical.
Madame Foura ajoute qu'il est particulièrement douloureux pour les personnels soignants de voir des personnes démunies ayant besoin de soins sans pouvoir leur apporter l'assistance nécessaire. Un autre acteur du secteur dit espérer que les efforts diplomatiques porteront rapidement leurs fruits afin que les autorités puissent enfin se concentrer sur ces questions de santé rendues urgentes par les désengagements actuels des humanitaires suite à la crise de liquidité.
Le coordonnateur provincial des écoles conventionnées kimbanguistes dont l'ex-province orientale a exhorté les élèves de sa juridiction à adopter une citoyenneté responsable. Ce message a été adressé samedi à Kisangani lors de la cérémonie d'installation du nouveau gouvernement scolaire de l'Institut technique agricole et vétérinaire Itav Simisimi. Un reportage signé Jacques Moukonkole.
Les élèves d'aujourd'hui sont des responsables de demain. Nous devons faire d'eux de bons citoyens pétris des valeurs morales et sociales éprouvées. C'est en ces termes que le coordonnateur provincial de ZCK s'est adressé aux élèves de l'ITAV Simisimi et aux différents invités à cette cérémonie. Selon Clément Kasongo, tous les responsables scolaires et les élèves de son ressort dans la Grande Orientale doivent intérioriser cette réalité.
On vient à l'école pour apprendre, c'est pour devenir un homme, une femme utile à la société de demain. C'est pourquoi vous devez accompagner l'école, vous devez promouvoir l'action pédagogique.
C'est justement dans cette optique que l'on organise ce genre de cérémonie, affirme le coordonnateur provincial de ZCK, le pasteur Jean-Pierre Ikandikande.
Tous ces enfants, quand ils terminent, ils ont la facilité de gouverner, ils ont la facilité de diriger partout où ils seront parce qu'ils ont été entraînés au niveau de l'école. Donc c'est un apprentissage qui permet aux enfants de s'adapter.
La nouvelle présidente du gouvernement de l'Itav Simisimi, Virginie Salima, plaide auprès des autorités scolaires et des partenaires afin que des moyens conséquents soient mobilisés pour l'accomplissement des missions assignées à son gouvernement scolaire. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, le syndicat des enseignants du Congo Sieko, section de Moba, exhorte le gouvernement à mettre à disposition les bulletins scolaires pour l'année scolaire 2025-2026, alors que la première période vient de s'achever. Dans une déclaration faite ce samedi, le secrétaire permanent du Sieko Moba, Placide Muyumba, déplore le fait que les parents continuent de verser 1000 francs congolais pour ces bulletins qui restent indisponibles depuis l'année dernière. Des propos recueillis par Paulin Munanga.
Nous venons de constater que jusqu'à ce mois, la première période vient d'être clôturée où le gouvernement central n'a pas songé de déployer les bulletins scolaires pour l'année 2025-2026. Donc à ce stade, les enseignants sont encore obligés de proclamer la première période avec les spécimens de bulletins de l'année scolaire 2025-2026 qui jusque-là, les bulletins en propre ne sont pas encore déployés sur terrain. Alors que le parent d'élève, nous d'abord enseignants, nous sommes parents, nous sommes en train de liquider cet argent chaque début de l'année équivalent à 1000 francs par élève. Mais nous constatons que les bulletins ne sont pas jusque-là disponibilisés dans les écoles. Donc nous demandons beaucoup plus à l'excellence Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Éducation nationale, Monsieur l'Inspecteur Général, Chef du Corps des Inspecteurs, Monsieur le Secrétaire Général à l'UNC, de vous impliquer pour que, avant même la fête de Noël, que nous le bulletin en dire pour éviter de nous faire travailler comme nous avons subi cette année qui venait de s'achever récemment.
Au Congo central, le marché à Bako connaît une phase active de modernisation. Les travaux de construction de ce nouvel espace commercial implanté dans la commune de Mvunzi à Matadi progressent sans interruption. Les vendeurs principaux bénéficiaires de cette initiative expriment leur satisfaction et se disent impatients de pouvoir intégrer les lieux une fois les travaux achevés. Ils appellent par ailleurs au strict respect du calendrier établi pour garantir une mise en service rapide. Un reportage signé Nana Plurich Mambo.
Lancé récemment par les bourgmestres de la commune de Mvuzi, Oscar Mbuinga Tati, ces chantiers sont perçus comme une réponse concrète aux besoins pressants des commerçants de disposer d'un espace digne et sécurisé pour leurs activités quotidiennes. Financé à la hauteur de 15 000 dollars américains par l'Union européenne et l'ONG Diakonia à travers la structure COFED, la construction de ces marchés est exécutée par l'agence Splendid Construct pour une durée maximale de 3 mois. Le travaux qui avance normalement prévoit l'aménagement d'un centre de négoce moderne comprenant 64 tables et un pavillon. Chaque table aura une longueur de 1,50 m et sera surélevée de 90 cm, répondant ainsi aux normes d'hygiène et de confort exigées pour un marché moderne. Deux semaines après le lancement, la fondation est déjà placée et les exécutants procèdent actuellement à la séparation des pavillons où seront installées les tables. Ce qui donne de la joie aux vendeurs.
Je suis très satisfait du lancement des travaux au marché à Bako. Moi, je vends dans une boucherie. Mon souhait est d'intégrer les marchés et laisser la route libre pour les véhicules et les passants. Que les autorités nous aident en respectant les chronogrammes des travaux.
Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, le personnel pénitentiaire appelle le gouvernement congolais à assurer sa prise en charge effective. Cette revendication a été exprimée avec insistance samedi à l'occasion de la visite du ministre de la Justice à la prison centrale de Kisangani en mission officielle dont le chef-lieu provincial Guillaume Ngefa a été interpellé sur les conditions de travail des agents pénitentiaires. Le compte-rendu de Jacques Moukongolais.
Les agents pénitentiaires filment des colères. Devant le ministre de la Justice, en visite dans leur maison carcérale, ils dénoncent leur non-prise en charge par l'État congolais. Certains affirment ne pas être mécanisés alors qu'ils travaillent depuis 2017 et même bien avant cette année pour certains. Et pourtant, ils sont confrontés à plusieurs défis liés non seulement à leur survie, mais aussi à la sécurité des détenus. Le représentant de ces derniers a aussi pris la parole pour plaider non seulement pour l'amélioration de leurs conditions carcérales, mais également en faveur des surveillants. Certains se livrent à la mendicité, souligne-t-il. Ils espèrent que la visite du ministre va apporter des solutions à leurs doléances. Au centre de détention d'Ossio, à plus de 16 km au sud-ouest de la ville, les 70 pensionnaires qui s'y trouvent ont plaidé pour l'amélioration de leurs conditions alimentaires. Le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, leur a promis de transmettre toutes ses préoccupations au gouvernement pour d'éventuelles solutions. Notons qu'à la prison centrale de Kisangani, le nombre de détenus est de plus de 1100 alors que la capacité d'accueil est évalué à 500. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Ouganda, après 38 jours de détention, les militants kényans des droits humains Bob Njagi et Nicolas Oyo ont été libérés. Ils avaient été arrêtés le 1er octobre en Ouganda par des hommes armés alors qu'ils suivaient la campagne de l'opposant Bobby. Depuis leur arrestation, leurs proches étaient sans nouvelles, suscitant une vague de mobilisation diplomatique et d'appels à leur libération de la part des ONG. Les deux défenseurs ont finalement recouvré la liberté dans la nuit de vendredi à samedi 8 novembre. Avant de regagner le Kenya, c'est samedi.
L'invité.
Notre invité nous arrive de Kindu dans la province du Maniema. Il s'agit de Ngwama Théodore, directeur général adjoint de la société minière Sakima. Dans un entretien accordé à Radio Okapi en marge de la deuxième édition de la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures tenue du 3 au 5 novembre dernier au Maniema, il revient sur les défis actuels auxquels fait face cette entreprise publique. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Monsieur Ngwama Théo, bonjour.
Bonjour madame.
Il y a quelques mois, on nous a parlé de relance des activités de Sakima. Nous sommes à quel niveau?
Écoutez madame, situer les niveaux, c'est un peu difficile de le dire parce que c'est toujours le financement qui intervient avant toute chose. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà deux ou trois semaines passées, notre directeur de participation est passé par ici avec nos partenaires de MMR. On s'est associé pour commencer le commerce de monazite dont nous avons avons des matériaux qui sont installés à Lubutu. Et je crois que d'ici là, les résultats vont commencer à tomber.
Les résultats vont commencer à tourner. Comment situer la population?
Oui, la population n'a qu'à attendre. Quand ça tourne, il y a des retombées qui tombent sur la population. On ne va pas travailler avec toute la population. Il y a un petit nom, un petit groupe avec lequel on travaille. Les retombées, c'est la population locale qui en bénéficie.
Il y a certains qui pensent que Sakima est devenu un sac de problèmes. Est-ce ça?
Ça a toujours été un sac de problèmes parce que l'État propriétaire n'a pas investi beaucoup d'argent dedans pour pouvoir relancer. Faut pas penser que le Sakima est un cas isolé dans le pays. C'est le cas de la SNCC qui est une entreprise d'État qui a des problèmes parce que l'État n'a pas investi. Il y a la MIBA qui est dans la même condition qu'une entreprise minière. Il faut donner le temps au temps. Quand l'État propriétaire va donner les moyens qu'il va donner avec les nouveaux partenaires qu'on aura d'ici là, je crois que les choses vont reprendre.
Et actuellement, comment est-ce que vous travaillez parce que vous êtes dans le mine?
Oui, nous sommes dans les mines parce que c'est des carrés miniers qui sont les nôtres. Nous attendons. Nous sommes en pour parler avec le Mercuria des Américains et nous attendons les deals quand le chef de l'État aura signé avec les Américains les deals. Et puis nous, ces services, on signe avec Mercuria et les choses vont pouvoir reprendre.
On vous accuse d'avoir signé des contrats qui ne bénéficient pas à la province mais bénéficient aux individus.
Est-ce qu'ils peuvent vous dire quels sont ces contrats? Posez-leur la question qui vous disent quels sont ces contrats qui bénéficient aux individus et non à la province. Mais la province, c'est une grande entité. On ne va pas signer le contrat, on ne le signe pas avec la province, mais c'est avec des individus qui vont travailler pour payer des taxes à la province. Ce n'est pas la province qui va travailler avec des entreprises, non.
Sakima bénéficie aussi du courant qu'il est en train de distribuer à la population et les gens se demandent, cet argent, vous faites avec quoi pour ne pas satisfaire normalement la population?
Et l'argent dont on parle de la SNEL, est-ce qu'ils peuvent situer à quelle hauteur ça se situe? Il faut poser la question à ces personnes qui vous parlent, vous leur demandez, montrez-nous d'abord la facture que vous avez reçue de la SNEL. Il y a des gens qui reçoivent des factures de 3000 francs. Vous croyez qu'avec 3000 francs, on peut relancer quelque chose? Il ne faut pas oublier que le central Rutshukuru, il date de 1952. Il a vieilli. La capacité ne répond plus. Il faut laisser le temps parce que nous sommes en négociation avec la société STS qui va pouvoir rénover la centrale et le courant va pouvoir revenir à la normale.
Alors, vous avez participé à ces assises de 3 jours où on a parlé sur le mine, l'énergie et les infrastructures. Quel est le problème que Sakima a exposé et que le monde pouvait écouter?
La Sakima se retrouve dans le secteur des mines et de l'énergie parce que vous ne pouvez pas faire les mines sans énergie. Notre contribution se situe à ces deux niveaux. Nous avons les mines et nous cherchons à produire beaucoup plus d'énergie pour pouvoir booster les mines qui sont sous notre responsabilité.
Comment faire pour relever ces grands défis qui vous tiennent au cou?
Ces grands défis nécessitent des financements et il faut chercher des partenaires qui ont des moyens, qui puissent intervenir dans ces mines et les solutions pourront sortir de cette situation-là. S'il n'y a pas de partenaires sérieux, ça va être difficile pour nous.
Qui va chercher pour vous ces partenaires?
C'est nous-mêmes d'abord et l'État propriétaire. L'entreprise ne nous appartient pas, l'entreprise appartient à l'État. C'est l'État qui nous a mandatés. Quand l'État nous mandate, il faut qu'il nous donne la capacité de pouvoir relever ce dont tu nous as donné la possibilité de pouvoir faire comme travail.
Monsieur Ngouama Théodore, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Ngouama Théodore, directeur général adjoint de la Sakima, qui s'exprimait au micro de Florence Kizalunga, un témoignage qui éclaire sur les réalités que traverse Sakima dans le contexte actuel du secteur minier au Maniema. Merci d'avoir suivi cette édition du journal sur Radio Okapi. L'actualité continue, claire et fiable sur nos antennes et nos plateformes numériques. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec l'information.